Ich wusste nicht, wen und was
je
wir
ne savais
heute
pas
Morgen hier
qui ni ce que nous devions attendre ici ce matin. Au début, nous avions prévu d'être ensemble en tant que frères, mais beaucoup de frères n'ont pas pu venir parce qu'ils avaient déjà planifié le temps. Je pense donc que nous faisons bien de venir tous devant la face de Dieu avec nos besoins ou tout ce qui peut nous toucher. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements et de révélations de la parole, plus qu'à n'importe quelle époque, quel âge de l'Église, mais quand il s'agit de notre vie de foi, de croyant, quand il s'agit d'être une bénédiction pour les autres, de notre désir d'être une bénédiction pour les autres, quand il s'agit de que Dieu puisse nous utiliser, quand il s'agit de l'utilisation que Dieu pourrait faire de nous, quand il s'agit de ce qui nous retient, peut-être encore de ce qui dérange les autres. Et très souvent, nous ne remarquons même pas qu'il peut y avoir en nous quelque chose de déconcertant qui dérange les autres. Et tout ce qui dérange ne sert pas à promouvoir l'unité de l'esprit, mais à la détruire. Et nous devons toujours faire attention lorsque Paul écrit au sujet des dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12, il dit, ces dons de l'esprit sont donnés pour l'édification de l'ensemble de l'Église. Tout ce qui est d'origine divine, tout ce qui vient de Dieu nous relie à Dieu et nous conduit à Dieu. Tout ce qui est d'origine propre, tout ce qui vient de nous, dressera les autres contre nous et tracera une ligne quelconque qui ne pourra pas être franchie parce que les hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne peuvent pas toujours dire oui à quoi que ce soit, à moins que cela ne vienne vraiment de l'Esprit de Dieu. À moins que cela soit vraiment venu de l'Esprit de Dieu. Et les Saintes Écritures disent que les dons, peut-être devrions-nous justement lire 1 Corinthiens 12. Vous savez que nous croyons la parole de Dieu et que nous croyons que les dons de l'Esprit doivent être efficaces, agissants. Et donc, lisons 1 Corinthiens 12, du verset 4. Il y a donc diverses sortes de dons de la grâce, mais un seul et même Esprit. Et il y a diverses sortes de services, mais un seul et même Seigneur. Et il y a diverses sortes d'opérations de la puissance, mais un seul et même Dieu qui opère toutes choses en tous. Peu importe qui est utilisé par Dieu, de quelle manière que ce soit, le même esprit qui agit dans celui qui est utilisé par Dieu, le même qui agit dans l'individu qui est utilisé par Dieu, c'est le même esprit qui est actif dans tous ceux qui doivent entrer dans la bénédiction de ce que Dieu veut donner, dire ou faire maintenant par l'intermédiaire d'un seul que Dieu utilise. C'est précisément le Saint-Esprit qui opère tout en tous, non pas qu'il n'agit qu'en un seul, en parlant par lui, mais qui opère tout en tous. Et si c'est le cas, nous n'avons aucune difficulté avec nous-mêmes ou avec ceux qui doivent entendre ce que l'Esprit de Dieu donne. Si celui ou celle qui doit être utilisé par Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, alors tous ceux qui doivent recevoir sont également conduits par ce même Saint-Esprit pour l'accepter, le recevoir et être ainsi par cela béni. Il est ensuite écrit au verset 7, « Mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun, c'est-à-dire pour l'édification de toute l'Église. » Et il est dit encore, donc pour le bénéfice de l'Église, ainsi, au verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit. Et nous voudrions, en ce lieu, que nous nous inclinions tous devant l'action de l'Esprit de Dieu et que ainsi nous fassions en sorte que qu'il n'y ait plus rien de propre, mais que ce soit le Seigneur qui pourrait tout opérer en tous. La première chose, c'est que le vase que Dieu veut utiliser soit purifié afin que l'Esprit de Dieu puisse parler et agir librement sans intervention humaine. Mais si le vase n'est pas purifié, supposons que nous lisions maintenant Matthieu 6, pour donner un exemple, où il est écrit, vous devez donc prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tout de suite après, au verset 12, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le texte araméen dit, conduis-nous afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Note de l'auditeur. Et puis il est dit au verset 14, qui est aussi important que tous les autres, et aussi au verset 15, donc au verset 14, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous les pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il poursuit aussitôt au verset 16, il poursuit, de plus, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites, car ils se donnent un air triste pour se donner en spectacle aux gens par leur jeûne. Je vous le dis en vérité, leur récompense est perdue. Peu importe qui, où et quoi. Si nous voulons nous présenter aux gens avec ce que nous faisons, que ce soit le jeûne ou la prière, les chants ou la prédication, peu importe, notre récompense est perdue. Et nous n'avons plus besoin de nous arrêter si les autres ne nous récompensent pas non plus en n'entendant pas, en n'écoutant pas ce que nous avons dit, si les autres ne nous récompensent pas en ce qu'ils n'écoutent pas ce que nous avons dit, que cela ne nous étonne pas. Il faut tout simplement respecter cet ordre divin et se laisser insérer et se soumettre à cet ordre. Celui qui veut être utilisé par Dieu doit d'abord se plier lui-même et se placer lui-même sous la parole de Dieu en toutes choses et se laisser classer d'abord divinement. Car il est dit ici que si nous ne pardonnons pas aux autres, et c'est là une chose qui, parmi les croyants, peut être considérée comme la pire racine de l'amertume et du mal, par laquelle nous nous détruisons nous-mêmes dans notre vie spirituelle, si nous ne sommes pas devenus libres de tout ce dont nous pensons devoir accuser quelqu'un d'autre. Il est même dit, si tu viens à l'autel pour présenter ton offrande à Dieu et que là tu te rendes compte que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, Mais si quelqu'un veut se laisser utiliser par Dieu dans l'Église et qu'il se rend compte que son frère a quelque chose contre lui, mon frère a quelque chose contre moi, et il est pris de tremblement et d'appréhension, alors ce qui arrive alors ne peut plus être une bénédiction pour personne. Si nous nous rendons compte qu'au moment où nous nous approchons de l'autel de Dieu, pour prêcher ou pour faire autre chose, et que nous nous rendons compte que notre frère a quelque chose contre nous, alors nous ne devons pas nous obstiner et dire, Seigneur, je vais passer maintenant. Par où passer? Ce que tu diras ne sera pas en bénédiction. Par où voulons-nous passer? Le Seigneur lui-même dit, je ne te laisserai pas passer. J'ai donné ma parole ici, et si tu comprends que ton frère a quelque chose contre toi et que tu veux malgré tout passer, alors va d'abord vers ce frère-là. Ça, c'est mon passage pour toi. C'est la porte que je t'ouvre, C'est le chemin que je te montre. Et alors, tu verras mon salut et tu feras l'expérience de ma puissance. C'est le chemin de notre Dieu. Si nous observions la parole de Dieu en toutes choses, nous serions aider. Et alors, il n'y aurait rien dans l'Église du Seigneur que nous ne puissions suivre et apprécier et aller avec. Au contraire, ce serait une pure joie. Alors que personne n'ait ici l'impression que nous ne nous réjouissons pas lorsque Dieu peut utiliser quelqu'un. Bien au contraire, il s'agit d'une joie profonde, sincère, intime, lorsque Dieu peut bénir et utiliser les uns ou les autres. Et nous remarquons que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, nous le remarquons. Quelle résonance, quel écho il y a lorsque le Seigneur, notre Dieu, parle au milieu de nous. On remarque que le cœur se met à brûler, car il est écrit, le Seigneur, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors que le Seigneur parlait avec nous? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait? C'est un témoignage que le Saint-Esprit donne à chacun quand c'est lui qui agit, parle et se révèle. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, lorsque nous avons entendu Frère Branham pour la première fois, tout était nouveau pour nous. Rien de ce que nous avons vu et entendu ne nous était familier. Mais nous y sommes allés avec un cœur ouvert pour faire l'expérience de Dieu, pour expérimenter Dieu. Et quand cet homme est monté sur la plateforme, il y avait déjà quelque chose dans mon cœur. Oh, j'aurais pu pleurer. une atmosphère si douce, plein d'amour. Il est monté sur la plateforme et on avait l'impression qu'avec lui, la gloire, la paix et la bénédiction de Dieu sont venues. Mais on a entendu d'autres évangélistes.
Hein.
Le rideau avait été fermé, tiré, puis ils ont annoncé maintenant l'homme de Dieu, tel et tel, va maintenant s'avancer. Et la personne est allée avec grand fracas au microphone et a saisi le microphone et puis allait dans tous les sens, courait sur la plateforme. Mais c'était très différent chez Frère Branham. Pas de spectacle, pas de show, rien du tout. Simplement, un petit homme s'avance devant et demande à tous, « Aimez-vous le Seigneur Jésus ?» Oh oui, c'était comme une huile versée sur nous. Nous savions tous, maintenant, le Seigneur est présent. Et c'était en fait très beau. Nous ne savions rien de lui. Si quelqu'un nous avait écrit qu'un évangéliste du nom de Müller, Meyer ou je ne sais quoi allait maintenant parler, cela aurait été presque autant. Mais il y avait quelque chose dans le cœur à y aller et à l'entendre. Nous l'avons vu dire aux gens d'où il venait, qui ils étaient, combien de fois ils avaient été opérés. Il dit à un homme, tu viens de Berlin, je vois la ville, ta femme est à la maison, malade, et une autre femme, tu viens de Hambourg et partout. D'où venaient les gens? Comme ça. Nous ne savions pas quoi faire de tout cela, ni comment le classer, mais pendant tout ce temps, nos cœurs brûlaient, car nous savions que Dieu était dans la chose. Et je peux dire cela à la gloire du Seigneur. Pas un seul instant, je n'ai douté. Pas un seul instant. Et à beaucoup de ceux qui doutent de ce que Dieu fait, je voudrais donner un conseil. Ils aimeraient bien commencer par douter d'eux-mêmes pour arriver ensuite à une foi totale, pour faire confiance au fait que Dieu agit par grâce. Eh bien, dans un sens plus restreint, il en va de même pour chaque enfant de Dieu. Nous ne venons pas ici pour nous faire entendre ou voir. Nous venons avec crainte et tremblement dans la présence de Dieu et disons, Seigneur, utilise qui tu veux. Prends mes frères, prends mes sœurs et bénis-les de la richesse de ta grâce. Eh bien, en fait, nous ne voulions pas parler de cela. Nous voulons parler des choses qui concernent peut-être encore certains d'entre nous. Encore certains d'entre nous. Nous savons que dans les Actes des Apôtres, il est écrit que les gens ont été tellement impressionnés par la prédication et par ce qui s'est passé qu'ils ont rassemblé leurs livres de magie ou de sorcellerie et tout ce qu'ils avaient et l'ont brûlé afin d'être complètement libérés de tout ce à quoi le diable pourrait encore avoir droit dans leur vie. Et parfois, ce sont des choses que l'ennemi a inspirées qui se trouvent dans nos maisons. Des choses que l'ennemi a inspirées par l'ennemi qui se trouve dans nos maisons. Là où l'ennemi peut, c'est là qu'il peut venir. Et cela me rappelle maintenant le début que nous avons eu ici à Krefeld il y a une bonne quinzaine d'années lorsque nous étions à une heure de prière en haut chez frère et sœur Borg dans la rue à Ratzer. Donc, les parents de notre frère. Et tout à coup, il y a une révélation qu'il y a un magazine dans la maison avec des horoscopes et tout ce genre de choses diaboliques. Et la sœur dit, nous n'avons rien de tel à la maison, mais dans la révélation, cela avait été montré. Dans la révélation, cela avait été montré et dit, à moins que cette revue ne soit retirée de la maison, avant cela, je ne peux pas bénir. Et la sœur était elle-même surprise. Et on a constaté que quelqu'un était passé à la porte et avait vendu une revue sans que l'on sache ce qu'il y en était en détail dans les pages. Et soudain, notre sœur Borg trouve, donc ce n'est pas frère Alfred, mais sa mère, et elle apporte la revue et dit, je n'y ai vraiment pas pensé quand on a dit ça, mais ce que Dieu dit, ce que Dieu révèle, c'est vrai, et puis nous l'avons brûlé. Qui était là à l'époque? Oui. Alfred Borg, Reinhold Hilling, oui. Il y a au moins 5, 6, 7 personnes ici. Oui, le frère Luc ici aussi qui était présent. Et la victoire de Dieu a été manifestée d'une manière très puissante. Nous pouvons dire, oh, je n'y crois pas. Oui, l'ennemi ne nous demande pas toujours si nous croyons ou pas ou non. Il dit que ici vous avez mes choses que moi j'ai inspirées dans votre maison et là où se trouve ma parole inspirée, c'est là que j'ai mon droit. Si nous prenons cela dans l'autre sens, nous pouvons dire que là où se trouve la parole inspirée de Dieu dans notre cœur, dans nos maisons, là Dieu a son droit et sur et dans les hommes. Mais là où il y a des choses inspirées, que l'ennemi a inspirées, nous pouvons dire oui, ce n'est qu'un livre. Et il y a des gens, parfois ce sont des objets, il y a des gens qui sont très pieux et qui disent que nous avons même le sixième et le septième livre de Moïse. Ce n'est pas possible. Nous devons pouvoir distinguer les choses sur lesquelles l'ennemi a un droit et celles sur lesquelles il exerce et fait valoir ce droit sur nous. Et nous devons nous débarrasser de ces choses sans nous soucier des conséquences. Dans la Bible, on a fait le calcul de la valeur et qui sait où cela se trouve dans les Actes des Apôtres. C'était une grosse somme qui avait été réunie si l'on avait additionné la valeur des livres qui ont été brûlés, si on avait additionné tout. Mais je vous le dis, la valeur que ces gens ont reçue de Dieu après que les livres ont été brûlés n'était pas comparable à ce qui était parti en fumée en termes de mammon. Et donc, nous devons pouvoir nous séparer de tout ce qui n'est pas d'origine divine, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui n'est pas inspiré de Dieu et qui se trouve dans nos maisons. Et ce sont des êtres humains qui cherchent parfois l'erreur ici et là, mais pas là où on pourrait la trouver. Certains disent, peut-être qu'on n'a pas prié assez fort pour moi et peut-être pas assez loin, on m'a pas assez loin d'huile, etc. Non, frère Branham le dit, si un démon a encore un droit sur nous, alors nous pouvons verser un litre entier d'huile sur la tête de la personne et prier jusqu'à ce que notre voix ne soit plus là. Et le démon restera à moins que nous n'ayons fait sortir ce sur quoi le diable a un droit. Et alors, la victoire de Dieu pourra se manifester. Ce sont donc, si l'on veut voir, les choses sous cet angle, tout est déjà accompli à Golgotha, déjà arrivé à Golgotha. Les puissances des ténèbres ont été désarmées et publiquement mises au carcan. Et Dieu a triomphé en Christ de toutes les puissances des ténèbres. Ce n'est pas que quelqu'un ici ait commencé à dire « Oui, le pouvoir de Satan est si grand. » Le pouvoir de Satan n'est pas si grand que cela. Nous avons affaire à la toute-puissance de Dieu qui a vaincu le pouvoir de l'ennemi. Mais s'il y a des choses sur lesquelles l'ennemi a un droit, parce qu'elles sont inspirées de lui. Et parfois, ces histoires ressemblent à des fantômes quand les gens vous racontent ce qui se passe dans les maisons ici et là et qu'on se demande pourquoi. On se demande pourquoi et pourquoi. Nous devons nous examiner devant la face de Dieu pour savoir si l'ennemi a encore un droit sur nous d'une manière ou d'une autre à cause d'une chose dont nous sommes responsables. Nous savons que Jésus-Christ nous a rachetés et que nous sommes une propriété absolue et totale du Seigneur. Mais nous devons couper la dernière possibilité à l'ennemi qu'il ne nous irrite plus, mais que lorsque des choses nous arrivent de l'extérieur, nous les reconnaissions, que nous puissions les discerner à jour et savoir maintenant, oh, l'ennemi veut ici mettre la main à la pâte et laisser entrer ces choses dans la maison. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, c'est maintenant l'ennemi qui veut faire du mal. Ici, et que nous n'accusions alors ni le frère, ni la sœur, mais que nous disions simplement, Satan, arrière de moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Le Seigneur Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, arrière de moi. Il a directement parlé à Satan. Le Seigneur savait faire la différence entre Pierre et l'inspiration de l'ennemi sur Pierre. Si nous disions aujourd'hui à un frère, arrière de moi, Satan, oh, le frère nous en voudra jusqu'à sa mort et après, n'est-ce pas? Il nous en voudra. Mais ce n'était pas le cas de Pierre. Pierre avait entendu la voix du Seigneur. Suis-moi. Si nous sommes des disciples réels de Jésus-Christ, nous ne nous offusquons pas, nous ne nous heurtons pas à quoi qu'il puisse être dit. Nous remercions Dieu et nous l'acceptons. Et c'est ainsi que nous sommes aidés. Pierre a pu se reconnaître plus tard et il s'est toujours senti, n'est-ce pas, si fort et a dit, Seigneur, et si tous t'abandonnent, moi je ne le ferai pas. Et le Seigneur dit à Pierre, écoute, avant que le coq ne chante une fois, tu m'auras renié trois fois. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur Jésus a permis que même un tel homme qui a de si bonnes intentions, qui se sent encore fort en lui-même, doive reconnaître, Seigneur, sans ta puissance, c'est un projet, une intention qui ne peut pas être mis en œuvre. Mais avec ta force, avec ta puissance, je peux tout faire. Et Paul dit plus tard, je peux tout par celui qui m'a rendu fort. Et c'est le Christ. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est venu pour aider ceux qui sont fatigués et chargés. Il a parlé en disant, les bien portants n'ont pas besoin de médecin, du médecin, mais les malades. Oui. Et ce matin, personne ne doit se préoccuper de lui-même. Mais simplement de ce qu'il ressent, s'il sent que je suis encore chargé, quelque chose me donne du fil à retordre, je ne peux pas m'en occuper. Alors nous devrions alors avoir le courage de dire, Seigneur, me voici. Je ne viens pas vers les frères, je viens à toi en allant aux frères. Et je crois que quand les frères m'imposent les mains, je crois que tu m'aides. Et que tes mains me sont imposées. Nous ne pouvons aider personne, mais nous pouvons croire avec vous. Et nous pouvons ne faire qu'un. Et nous pouvons être qu'un, que ce soit deux ou trois, ou nous tous et demandons à savoir que le Seigneur a fait la promesse qu'il peut nous aider et qu'il nous aidera tous. Nous aidera tous, là où deux ou trois sont réunis. Voici une autre parole que je voudrais lire, tirée de Deutéronome 18, Deutéronome 18, verset 9. Deutéronome 18, verset 9. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne prendras pas l'habitude d'imiter les abominations des nations qui y habitent. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille
comme
sacrifice, ni divin qui se mêle de deviner, ni pronostiqueur de temps, ni aucun qui fasse des prédictions, ni qui fasse des prestiges. Personne pour envoûter les esprits ou pour appeler les esprits des morts, personne pour consulter un esprit de divination ou pour s'adresser aux morts, car tout homme qui s'adonne à de telles choses est une abomination à l'Éternel. Et si nous consultons d'autres passages bibliques, il est dit, « Eh Seigneur, les ennemis sont entrés dans ton sanctuaire. » Mais le temps est venu où ils ont dû sortir parce que ce qu'ils ont fait a été mis à jour pour faire comme lorsque le Seigneur Jésus est entré dans le temple. Il a fait le ménage, il a renversé, il en a frappé même certains et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. La compréhension que Dieu nous a donnée sur les choses qui se passent maintenant dans le royaume de Dieu, c'est que dans les derniers temps, tout sera, tout devait être rétabli et ordonné divinement. Maintenant, pour revenir à ce sujet et le conclure, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit que tous ceux qui étaient tourmentés par le diable venaient à lui? C'étaient les opprimés, les abattus, les désespérés, les personnes en détresse. Et si l'on y réfléchit bien, c'est précisément vers ces personnes que le Seigneur s'est tourné d'une manière toute particulière, avec tout son amour, sa sollicitude et sa grâce, et qu'il a pris soin d'elle. Il a sévèrement réprimé les scribes, mais il a aimé les pécheurs, il a guéri les malades, il a délivré les possédés, il a aidé. Et nous lisons qu'il a parcouru le pays en faisant du bien et en aidant partout autour de lui, partout où il est allé. Je veux dire que nous ne devons pas avoir honte, mais que nous pouvons venir au Seigneur. Et parfois, il peut arriver que des hommes n'aient rien fait eux-mêmes, que le péché des pères ait été perpétré jusqu'à la troisième et la quatrième génération, et ils ne le savent pas. Ils se fatiguent et se démènent sans savoir que l'ennemi veut faire valoir un droit sur eux d'une manière ou d'une autre. Ce matin, cela va changer. Ce matin, nous voulons nous tenir avec une foi totale sur le sol de la victoire de Golgotha et dire, Seigneur, si c'est nous qui sommes responsables, si ce sont nos ancêtres qui sont responsables, il est écrit que notre condamnation est tombée sur lui, nos fautes ont été placées sur lui, il a été frappé et martyrisé à cause de nos péchés et de nos fautes, et aujourd'hui nous sortons libres. Pour que nous ayons la paix et que nous sortions libérés, délivrés, il ne faut pas voir qu'un côté, il faut aussi voir l'autre côté. À quoi cela nous servirait-il de dire que Dieu condamne le péché des pères, et il ne s'agit pas de n'importe quel péché, mais de tout ce qui a été poussé et fait par l'inspiration de Satan. C'est ce que Dieu punit chez les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Punit sur les enfants. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet, mais vous savez que la parole de Dieu dit que le péché des pères est puni sur les enfants. Non pas si aujourd'hui l'un a facilement trompé l'autre, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais du péché qui est une abomination devant Dieu. Le péché où les hommes se sont placés sur le terrain de l'ennemi et sous l'inspiration directe de Satan, du diable. Ce sont les péchés que Dieu punit. Nous n'avons pas besoin de faire des recherches et de dire, Seigneur, comment était mon père ou mon grand-père, ou alors le père de mon grand-père. Ce n'est pas le sujet, mais pour en être tout à fait sûr, portons-le aujourd'hui sur nos lèvres de tout notre cœur et disons, mon Dieu, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, tu as ôté de nous la malédiction et tu nous as bénis. Tout droit que l'ennemi s'était approprié par ma propre faute ou par la faute d'autrui, d'autres personnes, lui, ont été retirés. J'appartiens au Seigneur Jésus entièrement pour ce temps et pour toute éternité. Et en un tel moment, il se passe quelque chose et l'ennemi a été mis à nu avec sa machination. Sur la croix à Golgotha, les forces de l'ennemi ont été mises à nu et clouées sur la croix, mais nous devons tous aussi mettre à nu et en lumière les choses de l'ennemi, afin que cela soit révélé et que l'ennemi ne puisse plus rien faire et ne puisse plus faire valoir ses droits, mais que tout puisse être entièrement soumis au Seigneur. Ici, l'Éternel Dieu a donné à Moïse l'instruction que personne ne se livre à une quelconque superstition ou sorcellerie. On en trouve parfois parmi les hommes. Ils ont fait ceci ou cela à leurs enfants, il ne faut pas croire que c'est possible. Certains voient quelque chose ici et là, on n'ose même pas dire les choses, mais d'une certaine manière, ils pensent tout de suite à quelque chose et on se dit que quelque chose va arriver, car un chat a croisé leur chemin. Que le chat ou autre chose. Vous savez que cela existe parmi les hommes. Et c'est propagé, cette superstition. Et des centaines d'autres choses. Qu'un chat ou un chien passe sur le chemin. Qu'est-ce que cela me dérange? Laisse-le aller. Je ne vais pas l'attacher. Mais qu'est-ce que c'est? Pour autant que l'homme pense quelque chose à ce moment-là, l'inspiration de Satan le frappe. Et il se passe quelque chose, pour autant qu'il ait cru à la chose. Et Job dit déjà, ce que je craignais est arrivé sur moi. C'est arrivé. Pourquoi? Parce que dans la crainte, il n'y a pas Dieu. Et ni l'amour de Dieu. Dans la peur, il y a Satan. Et au moment où la peur s'empare de nous et que nous prêtons attention à la chose, l'ennemi nous donne une pensée quelconque et nous effraie et voilà qu'il y a qui se produit un accident et toutes sortes de choses et toutes sortes de choses. Tout ça parce que nous avons donné foi à la chose qui nous a soudain inspiré. Cela ne doit pas être le cas. Cela ne doit pas nous arriver. Nous ne sommes pas des gens qui interprètent n'importe quel signe, même si c'était des signes. Nous avons le passage biblique qui nous a dit que voilà les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Non pas un animal quelconque qui traverse le chemin, mais ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce dont nous avons besoin, ce sont les miracles et les signes bibliques qui sont l'inspiration du Saint-Esprit qui se manifeste dans l'Église pour la bénédiction et le salut. Mais toutes ces autres choses, non pas que nous voulions les traiter à la légère, nous ne le voulons pas, mais nous aimerions vous dire, ne nous occupons pas des choses que fait l'ennemi, mais de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et alors, la peur se change en crainte de Dieu. Et alors, l'inspiration du Saint-Esprit nous frappera, nous atteindra, nous touchera. Je sais que l'un ou l'autre, ou peut-être même tous, ont ici et là des choses qu'ils ne peuvent pas gérer. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner du repos pour notre âme. Il veut nous débarrasser de la détresse et du fardeau. Il veut nous rendre totalement libres afin que nous puissions nous réjouir en lui et que l'inspiration divine de la parole et de l'esprit puisse nous atteindre et nous saisir afin que le Saint-Esprit puisse être répandu sur nous tous. Nous savons que le Seigneur a fait des promesses et qu'il les tient. Que ce soit aujourd'hui pour tous, pour un seul ou pour quelques-uns, Dieu le sait. Mais l'Écriture dit que si un membre souffre, c'est tout le corps du Seigneur qui souffre. Nous sommes devenus les membres d'un même corps. Et Christ en est la tête. Et nous voudrions qu'il puisse manifester sa victoire pleinement et entièrement. Voulons-nous aujourd'hui implorer la grâce et la puissance de Dieu, de ne plus rien faire dans l'incrédulité et le doute, et de nous placer ainsi dans le domaine de l'ennemi. Qu'a dit frère Branham? Il a dit ainsi certainement que la foi éloigne de toi ta maladie, aussi certainement l'incrédulité la fait revenir. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, va et ne pêche plus. Et frère, Branham a dit, ce mot-là ne pêche plus inclut ou bien signifie ne doute plus. Ne doute pas de ce que j'ai fait pour toi. Sinon, cela te reviendra. Si nous pouvons comprendre aujourd'hui ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons pas douter. C'est impossible. Car Dieu s'est montré puissant en nous. Et il y a trois choses que nous devons garder à l'esprit dans notre prière. La puissance du sang, de la réconciliation, et la puissance de la parole et la puissance de l'esprit. Si ces trois choses, la parole, le sang et l'Esprit de Jésus, sont loués joyeusement dans mon cœur, alors tout sera différent. Mais cela aussi doit se faire dans la foi, pas dans l'incrédulité, pas dans l'hésitation, mais avec une conviction totale, avec une joie totale, pas avec crispation, mais avec joie. Christ ne doit pas mourir maintenant. Il est déjà mort. Il ne doit pas maintenant me racheter. Il m'a racheté. Il ne doit pas maintenant payer le prix. Il a payé le prix. Nous sommes sa propriété et c'est pourquoi nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur, notre Dieu. Et pourquoi Paul écrit-il, la joie dans le Seigneur est ma force. Quoi qu'il ait pu se passer dans votre propre vie, dans la vie de votre famille, dans la vie de vos ancêtres, regardez aujourd'hui seulement à Jésus. C'est ce que nous avons entendu dans la prédication traduite. Pourtant, regardez à Jésus. Détournez le regard de toutes les autres choses et regardez à Jésus, celui qui suscite et rend la foi parfaite. Et il fera bien, il fera toutes choses bien. Ce sont des gens qui prient dans le doute. Il y a des gens qui prient dans le doute et dans l'incrédulité. Et parfois, plus ils prient, plus ils sont frappés. Et puis, après un long moment, ils se lèvent et sont totalement mécontents d'eux-mêmes et de tous les autres. Cela n'a pas besoin de rester ainsi et d'être ainsi. Aujourd'hui, nous devons venir au Seigneur comme étant fatigués et chargés. Et nous devons dire, Seigneur, que ici, je me dépose ici avec tout ce qui m'oppresse, accepte-moi comme ta propriété et que tes bras éternels me portent et s'étendent sous moi, comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Un compositeur de chants chante, sans doute en référence à la parole de Deutéronome, où il est écrit qu'il a porté son peuple comme un aigle. Il a porté ses petits sur les ailes de l'aigle. Frères et sœurs, nous ne disons pas que les croyants traversent la vie sans difficulté, mais nous disons que les croyants savent où aller avec leurs difficultés. Nous ne disons pas que les croyants n'ont absolument aucun problème. Mais nous disons que les croyants savent où ils peuvent aller avec leurs problèmes. Ils connaissent le chemin. Ils viennent au Seigneur et lui disent, puis ils redeviennent joyeux et poursuivent leur route. Que nous puissions comprendre ce matin que tout le pouvoir de Satan est détruit. Il peut rôder comme un lion rugissant, mais la parole dit qu'il a vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu. L'autre voudrait aussi se comporter en lion, il voudrait dévorer. Mais nous sommes entre les mains de celui qui a vaincu et qui a ôté et qui a été à qui a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et les Écritures disent que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Aussi dans notre vie, dans ma vie, nous ne voulons rien d'autre que l'édification de l'œuvre de Dieu en nous et que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Nous avons eu ici, lundi et mardi, des heures de prière spéciales pour nos jeunes et une consécration, comme nous l'avons expérimenté devant la face de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent venir au Seigneur devraient venir et nous consacrer à nouveau devant lui et lui dire tout ce qui nous touche, tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce que nous n'arrivons pas à gérer et dire clairement, Seigneur, que quoi que ce soit qui ait été et qui soit venu sur ma vie, maintenant ta grâce est venue sur moi et le passé n'est plus valable. Mais le Seigneur a tout fait bien et nous a tous aidés par grâce. J'aimerais que même si au début la prière est un peu hésitante, et que nous répentons peut-être encore de telle ou telle chose que nous avons faite, que cette prière et cette repentance se transforment ensuite en joie et en paix, que cette heure se termine par un service de louange et de remerciement, parce que nous aurons ici expérimenté et vécu la victoire de notre Dieu. Et là où elle se trouve, on peut aussi l'entendre. Elle retentit loin à la ronde. La victoire de notre Dieu doit se manifester aujourd'hui en nous tous par la grâce et la puissance de Dieu. Croyez-vous tous que cela est possible? C'est certain. Et peut-être que cela n'a pas été le cas pour tous. Soyez patients. Nous souhaitons que personne ne soit confondu. Nous voulons que personne ne soit laissé et délaissé. Dieu veut que tout soit aidé. Et c'est pourquoi nous voulons faire comme le peuple d'Israël et comme Josué l'a fait. Les deux tribus et démis ont aidé les autres tribus jusqu'à ce qu'elles aussi entrent en possession de la terre promise. Jusqu'à ce qu'elles aussi entrent en possession de la terre promise. Nous aussi. Prions les uns pour les autres et les uns avec les autres jusqu'à ce que tous soient entrés en possession de la délivrance, de la solution et du pardon. De sorte que vous puissiez dire à partir de ce jour que les tempêtes grondent et que les vents se déchaînent. Je regarde avec confiance vers le haut car tu m'as aidé. Tu as étendu ton bras et tu as donné la victoire par grâce. Alléluia. Sois à l'Éternel, notre Dieu, qui se montrera glorieux à nous tous.
Amen.
Levons-nous. Tel que je suis, ainsi ça doit être. Pas ma propre force, mais la tienne. Ton sang me lave pur du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Ô mon Dieu, Dieu est saint et sa sainteté se déverse sur nous maintenant. Maintenant, dans ce moment bien précis, la sainteté de Dieu se repose sur nous. Regardons au Seigneur dans la tranquillité. Je ne peux pas traduire, c'est dans une langue étrangère. Note du traducteur. Oh Dieu, maintenant suis une prophétie par Frère Rousse. Ne vous ai-je pas fait part de mes instructions? Voyez, je parle à mon peuple depuis le commencement et je n'ai pas encore changé. Même en ces jours, en vos jours, en votre temps, je vous ai parlé par ma parole, par mon esprit, par tout ce que j'ai dit. Pourquoi ne faites-vous pas pleinement attention à ce que je vous dis? Pourquoi? Rejetez toutes ces choses, rejetez tout ce qui est encore propre en vous. Dépouillez-vous entièrement, déposez-vous sur mon autel afin que je puisse vous purifier, vous sanctifier. Mais tant qu'il y aura du vieux levain en vous, encore de la pâte acidifiée, je ne pourrai pas mettre ma parole en vous. Et je ne pourrai pas faire en vous tout ce que je voudrais faire. Mais l'heure est venue et si vous ne prêtez pas attention à ma parole et à mes instructions, vous ne serez pas sauvés.